Bonjour, bonjour à tous. Mardi 20 février 2018. Il fait un peu gris, il pleut un peu, mais je suis là et je ne suis pas seul pour mettre un peu de soleil et de couleur dans votre matinée. Je suis avec Yolène Torres. Bonjour Yolène, comment allez-vous ?
Bonjour Louis, très très bien, en pleine forme, comme tous les mardis.
En pleine forme et avec plein d'articles de toutes sortes. Pour ma part, nous parlerons aujourd'hui, par exemple, des lézards espions. Et oui, il paraît que ça existe. Également, de la bonne idée qu'a eu un voyageur de voyager avec des fausses fesses, nous en parlerons, et également toutes sortes de nouvelles insolites, comme une campagne signée, pourquoi pas. De votre côté, qu'avons-nous, Yolène ?
Alors, de mon côté, nous commencerons avec de la mode, et pas n'importe laquelle, la mode pour les gens en situation de handicap. Nous parlerons ensuite alimentation, puis beauté, avec un article notamment sur les injections de Botox.
Affaire à suivre, alors, tous ces sujets dans un instant, c'est tout de suite, restez avec nous.
Alors, on démarre avec la mode, donc les stylistes qui s'intéressent au handicap. C'est un article de Catherine Triomphe, publié par l'agence France Presse. Amputée de la jambe droite, fin 2014, après un cancer des os, Géris Madison, photographe de mode habituée au look glamour et aux semaines de la mode, essayait de s'habituer à porter une broche de titane toute sa vie. Jusqu'à ce que les designers de la petite société canadienne, alors je l'écorche peut-être, Allèle, qui avait repéré une photo de lui sur Instagram, lui envoie, en 2016, un cache-prothèse branché à essayer. « Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai cru que c'était Noël », a raconté à l'AFP le photographe de 45 ans basé à Los Angeles. « Avant, les gens me regardaient et savaient que j'étais amputée, j'étais gênée. Maintenant, ils me voient comme de l'art ambulant, ça m'a redonné confiance. » Monsieur Madison n'est pas le seul à avoir vu son quotidien s'améliorer ces dernières années grâce à de nouveaux produits à la fois chics et adaptés au handicap. Il y a un foisonnement de design à la fois très fonctionnel et esthétiquement désirable pour les gens ayant toutes sortes de handicaps, souligne Clara McCarthy, commissaire d'une exposition au musée Cooper et Witt du design à New York, qui présente jusqu'en septembre une vingtaine de produits emblématiques de cette évolution. Alors, outre les cache-prothèses d'Aleles, aux allures de tatouages géants vendues à partir de $375, l'exposition présente des baskets Nike Fly Heels, conçu à la demande d'un étudiant atteint de la paralysie cérébrale, qui s'enfile comme des pantoufles grâce à une tirette ouvrant l'arrière. Également une canne, tout en finesse, poignée de couleurs au choix, qui ne tombe plus quand on la pose contre un mur, une prothèse auditive comme une grande boucle d'oreille, un bracelet qui, couplé à une application GPS pour smartphone, indique le chemin par vibration, idéal pour personnes malvoyantes ou malentendantes. Ou encore un anorak, inclus dans une nouvelle ligne de vêtements pour enfants handicapés des magasins américains bon marché Target, qui s'enfile de multiples façons avec ses côtés ouvrables par bandes agrippantes. Alors pour beaucoup de ces produits, explique Caroline Baumann, directrice du musée, le pari est de séduire au-delà du public handicapé grâce à leur praticité. Quand les designers de Target ont conçu l'anorak, ils pensaient à l'enfant autiste qui a des difficultés à enfiler sa veste. Mais ce qu'ils ont vu, c'est que toutes sortes de gens l'achètent. Moi-même, je voudrais cet anorak pour mon fils de 3 ans, car c'est un combat quotidien de lui enfiler sa parka, dit-elle. Même conviction chez Case Kirkland, un ancien de chez Calvin Klein, qui a conçu le bracelet GPS à vibration Wayband, commercialisé fin 2018. Si le bracelet est testé avec des aveugles, dit-il, l'idée est qu'il puisse servir à quiconque qui ne veut pas avoir à regarder son téléphone pour s'orienter. Le prix, $299, pourrait ainsi baisser car la raison pour laquelle ces produits sont chers, c'est qu'il faut amortir leurs coûts sur un petit marché, souligne M. Kirkland. Ces créateurs tablent aussi sur le vieillissement attendu de la population qui s'accompagne de multiples handicaps. Une personne sur 3 à partir de 62 ans a des problèmes de vision et cette population doit doubler d'ici 2060. Selon M. Kirkland, qui évalue le marché américain des produits technologiques pour malvoyants à quelque $2,8 milliards aujourd'hui. Pour Matt, dont la petite société canadienne Top and Derby a conçu la canne qui ne tombe pas, il faut créer des produits que les gens aient envie d'utiliser, pas seulement fonctionnels. C'est comme les lunettes qui, jusqu'à la fin des années 40, étaient purement utilitaires et sont devenues des accessoires de mode après, dit cet entrepreneur qui a aussi lancé des chaussettes de contention très tendance. Mais beaucoup de ces nouveaux produits restent encore introuvables en magasin, étant vendus uniquement en ligne. Le plus gros obstacle actuellement, c'est que les gens veulent ces produits, mais les sociétés qui peuvent les mettre sur le marché sont très réticentes. Dit Monsieur Crocker, elles ont dans l'idée que les gens ne sont pas vraiment intéressés, on essaie de changer ça. Monsieur Madison espère contribuer à changer les mentalités en s'affichant avec ses cache-prothèses dernier cri. Il s'agit d'en finir avec les stigmates, ne plus avoir à cacher une prothèse auditive ou de jambe et pouvoir dire simplement « Je peux faire plus de choses avec cet accessoire », dit Madame Bowman.
Partons à présent du côté de l'Iran, où il se produit une situation à la fois totalement absurde et malheureusement triste et cruelle aussi. Je vous en parle. Un responsable iranien affirme que l'Occident a utilisé des lézards comme espions. L'ancien chef d'état-major iranien a affirmé mardi que des Occidentaux avaient utilisé des lézards et des caméléons, pouvant attirer des ondes atomiques en vue d'espionner l'Iran et son programme nucléaire. Hassan Firouzabadi, qui est actuellement conseiller militaire pour le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, répondait à des questions de médias locaux sur les récentes arrestations d'écologistes dans le pays. Indiquant ne pas connaître les détails sur ces interpellations, il a en revanche affirmé que l'Occident avait souvent utilisé des touristes, des scientifiques et des écologistes à des fins d'espionnage en Iran. Il y a plusieurs années, des personnes étaient venues en Iran pour collecter de l'aide pour la Palestine. Nous avons eu des doutes sur l'itinéraire qu'ils avaient choisi, a déclaré M. Firouzabadi à l'agence de presse ILNA, liée aux réformateurs. Nous avons trouvé en leur possession une variété d'espèces de reptiles du désert comme des lézards et des caméléons. Nous avons découvert que la peau de ces animaux attire des ondes atomiques et qu'ils agissaient comme des espions nucléaires, qui cherchait à localiser les mines d'uranium ainsi que les activités nucléaires de l'Iran, a-t-il ajouté. Ces propos interviennent après la mort en prison d'un universitaire et écologiste irano-canadien de renom et l'arrestation de plusieurs de ses collègues. Qavous Seyed Emami, 63 ans, était le directeur de la Fondation pour la faune persane qui œuvre à la protection des espèces menacées en Iran. Il avait été arrêté le 24 janvier et sa famille a été informée malheureusement vendredi de son « suicide » entre guillemets en prison. Un responsable judiciaire a affirmé dimanche que M. Emami avait avoué des crimes liés à une enquête pour espionnage et que 7 membres de sa fondation étaient en détention. Des universitaires de premier plan en Iran ont écrit lundi au président Hassan Rouhani pour demander des explications sur le suicide présumé en prison de Seyed Emami, mettant en doute cette version des faits, alors que sa famille a réclamé une autopsie.
Alors, on parle alimentation maintenant. Sur le quinoa, est-ce vraiment un super aliment? C'est un texte d'André Langlois, publié sur le site de Radio-Canada. Alors le quinoa, cette plante venue d'Amérique du Sud, fait fureur dans l'industrie alimentaire et séduit les consommateurs du monde entier. On vante ses vertus nutritionnelles, mais a-t-on raison de s'emballer? Le quinoa à la côte, il suffit de regarder les rayons des épiceries pour voir tous les produits à base de quinoa. En plus du grain nature, on peut acheter de la farine, des flocons et différentes préparations. Il se glisse aussi dans plusieurs produits, que ce soit dans les bars, les croustilles, les craquelins, les céréales, les pâtes alimentaires ou encore le pain. Sa polyvalence et son côté exotique, pratique, nutritif et sans gluten ont aidé à le propulser et à multiplier sa visibilité. Cultivé depuis longtemps en Amérique latine, cette pseudo-céréale de la famille des Chénopodiacées, la même famille que les épinards et les betteraves, est devenue un incontournable dans notre assiette. Selon Jordan Lebel, professeur en marketing à l'université Concordia, le quinoa occupe une position privilégiée dans l'univers des grains et des céréales en raison de son parcours extraordinaire. Son histoire, sa trajectoire et sa valeur nutritionnelle font qu'en marketing alimentaire, tous les éléments sont réunis pour en faire un succès instantané. Il faut ajouter que le consommateur est aussi de plus en plus soucieux d'une saine alimentation et de l'importance de manger santé. Le quinoa s'intègre bien à notre menu. Ses valeurs nutritionnelles sont intéressantes, comme l'explique Marie-Josée Leblanc, nutritionniste et coordinatrice d'Extenso. C'est un grain qui a un bon profil en acides aminés, une protéine complète pour les végétaliens, intéressant aussi parce qu'il est sans gluten. Alors, pour les gens qui ne peuvent pas manger de gluten, c'est un aliment de choix qui amène de la variété, mais ce n'est pas plus intéressant que d'autres graines, que d'autres céréales, que d'autres aliments. Pourtant, on l'a qualifié de super aliment et l'industrie l'a bien compris. D'ailleurs, on peut voir le mot quinoa bien en évidence sur nombre d'emballages. Cependant, il est préférable de bien lire la liste d'ingrédients, car parfois le produit est ultra transformé avec des additifs alimentaires, du gras, du sel, du sucre et du quinoa en faible proportion, très loin dans la liste d'ingrédients. Alors selon la nutritionniste Marie-Josée Leblanc, ce n'est pas parce qu'il y a le mot quinoa sur l'emballage qu'il y en a nécessairement beaucoup dans le produit. Qui dit ultra transformé dit un grain ultra moulu, ultra cuit, qui perd de la valeur nutritionnelle. Par exemple, des croustilles de quinoa restent des croustilles salées et grasses, comme des biscuits sucrés, des craquelins salés ou encore du chocolat. Ce n'est pas parce que l'on a ajouté du quinoa dans des barres sucrées qu'elles sont un meilleur choix, explique Marie-Josée Leblanc. Ça reste une barre de céréales qui est bourrée de sucre. Le quinoa est loin sur la liste. C'est une très très longue liste d'ingrédients. Ce n'est pas un produit intéressant du tout et il ne faut vraiment pas se faire avoir parce qu'il y a le mot quinoa dessus. C'est ce que les psychologues appellent des croyances compensatoires. On tente de transférer à d'autres produits probablement un peu moins santé tous les bénéfices perçus du quinoa. Un attribut plus ou moins négatif d'un produit peut être compensé par un attribut plus positif, donc dans ce cas-ci les vertus santé du quinoa. Comme l'explique Marie-Josée Leblanc, il faut faire attention avec le qualificatif « super aliment » car on allègue que cet aliment-là offre des bénéfices supplémentaires en matière de santé ou d'un point de vue nutritionnel, mais dans les faits, ce n'est pas fondé nécessairement. D'ailleurs, on peut très bien comparer le quinoa à d'autres aliments. Par exemple, le blé à grains entiers contient plus de fibres, autant de protéines et plus de calcium que le quinoa. La pomme de terre peut vraiment se comparer au quinoa et parfois même être plus intéressante parce qu'elle est très riche en minéraux. Avec le quinoa, on ajoute simplement un aliment de plus dans notre quotidien pour plus de variété. Selon Marie-Josée Leblanc, il faut arrêter de penser qu'il y a un aliment miracle. C'est l'ensemble des aliments qu'on mange qui fait en sorte qu'on a une alimentation saine. Il faut aimer ce qu'on mange, avoir plaisir à manger, et le quinoa fait très bien cette part-là. C'est un aliment qui est goûteux, agréable, mais qui n'est pas miraculeux. Attention.
Voyager en gagnant de l'argent ou en se faisant arrêter à cause de fausses fesses, c'est possible. Ça se passe à Lisbonne, au Portugal. Un passager en provenance du Brésil a été arrêté à l'aéroport de Lisbonne avec de fausses fesses contenant environ 1 kg de cocaïne, a annoncé la police la semaine passée. Les douaniers ont découvert la drogue suffisante pour confectionner 5000 doses individuelles sur le corps du passager, a indiqué dans un communiqué la police qui ne précise pas sur quelle partie exacte du corps la drogue a été trouvée. Le communiqué était toutefois accompagné de photos montrant un maillot de bain multicolore doté de deux sacs marrons sur sa partie postérieure. Selon le quotidien Publico et d'autres médias portugais, le passager en provenance de Belém dans le nord du Brésil portait sous son maillot de bain de fausses fesses remplies de cocaïne. Il avait aussi avalé des sachets de cocaïne, toujours selon ces médias. D'après la police, un deuxième homme, soupçonné d'être le destinataire de la cargaison, a été arrêté également à la gare principale de Lisbonne. Les deux hommes, âgés de 32 et 40 ans, sont poursuivis pour trafic de drogue et iront poser leurs fesses en prison. I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit to your main girl, to your main girl, to your main girl. I'm the call at two, but I know you never ask, cause I've been the one you assume will last. Past your main girl, past your main girl, past your main girl. Now I'm stuck.
Vient d'entendre Charlotte Cardin qui nous chantait Mean Girl.
Alors, je vous l'avais annoncé, nous parlerons maintenant beauté avec les injections de Botox. C'est un article paru dans la presse du 16 février et écrit par Nadiel Kutlu. Pour améliorer son apparence et donner une impression de jeunesse, les injections de Botox seraient de plus en plus prisées par les femmes dans la vingtaine. Or, un tel traitement à cet âge ne fait pas l'unanimité chez les médecins. Laurence, 25 ans, a eu ses premiers traitements de Botox l'an dernier. Vers 23 ans, j'ai commencé à avoir des rides sur mon visage, principalement la ride du lion entre les sourcils. Pour contrer l'apparition de ces nouvelles rides et éliminer celles que j'avais, j'ai décidé de commencer le Botox. Je suis très consciente que j'ai commencé tôt et que ce n'était pas nécessaire, mais c'était plus préventif que réactif, explique-t-elle. Cette jeune professionnelle montréalaise du milieu des assurances est ravie du résultat. Mon front est lisse et j'aime savoir que je retarde le vieillissement de mon visage. Outre le Botox, elle a fait retoucher ses lèvres et ses cernes. Spécialisée en finance, Justine, 26 ans, a aussi reçu ses premières injections de Botox l'an dernier par prévention. Je commençais déjà à remarquer certains changements sur mon visage. Comme j'ai des sœurs plus âgées, je peux voir les zones de notre visage plus sensibles au passage du temps, surtout au niveau du front, explique-t-elle. Elle est satisfaite de son traitement annuel. Je n'ai toujours pas de plis dans mon front car je fais de la prévention, sinon je sais que j'en aurai probablement. Aux États-Unis, les injections de Botox chez les 20 à 29 ans ont augmenté de 28% depuis 2010, selon l'American Society of Plastic Surgeons. Des données similaires ne sont pas disponibles au Québec, mais certains médecins confirment cette nouvelle réalité. La docteure Chloé Sylvestre, médecin omnipraticienne spécialisée en esthétique, constate que les patients dans la vingtaine qui ont recours au Botox représentent maintenant de 15 à 20% de sa clientèle, un chiffre en hausse qui a plus que doublé depuis les deux dernières années, note-t-elle. Je crois que les médias sociaux y sont pour beaucoup, avance la docteure. Quelles parties du visage sont ciblées par cette clientèle? Les zones du front, de la glabelle, c'est-à-dire les rides du lion, et des pas de doigts, répond-elle. La docteure Sylvestre voit d'un bon œil la prévention des rides et ridules dans la vingtaine, car cela permet de vieillir avec une meilleure mine, affirme-t-elle. On a réalisé qu'il y avait un réel bénéfice à commencer plus tôt. Avant, les gens étaient considérés comme jeunes s'ils commençaient fin trentaine, début quarantaine. Mais dans les dernières années, les études ont démontré que la prévention donne de meilleurs résultats, dit-elle. Elle explique qu'une personne qui commence le Botox tôt se retrouvera avec des résultats plus beaux et naturels qu'une personne qui fera du Botox après avoir laissé les rides apparaître et le collagène se dégrader. Et à la longue, on investit moins d'argent que si on commence plus tard. La médecin souligne aussi qu'on injecte moins de produits chez les jeunes. Elle précise qu'elle refuse tout patient de moins de 18 ans, et dans la vingtaine, le traitement reste du cas par cas, souligne-t-elle. Si aucune ridule n'est apparente sur le visage, elle suggère un rendez-vous pour des injections l'année suivante ou même encore plus tard. La génétique est aussi un facteur à considérer. Souvent, celles qui commencent dans la vingtaine me parlent du visage et des rides très prononcées de leurs parents. Les jeunes sont plus alertes, constate-t-elle. Le son de cloche est toutefois bien différent auprès de la dermatologue Suzanne Gagnon, spécialisée en laser et en dermatologie esthétique depuis 25 ans. Oui, le Botox est un médicament extraordinaire qui diminue les rides d'expression déjà présentes et c'est une très belle prévention de l'accentuation future des rides, convient-elle, mais elle affirme n'avoir aucune demande de patiente dans la vingtaine, tout comme, selon elle, la moyenne de ses confrères. La demande est plutôt à partir de 40 ans. Dans la vingtaine, c'est trop tôt, on a encore une peau très élastique, le collagène est encore très fort. La vraie prévention importante à faire à cet âge-là, c'est la protection solaire, clame-t-elle. C'est sûr que le Botox est tentant pour les jeunes femmes, c'est un traitement non-invasif, bien toléré, rapide d'exécution et qu'on peut arrêter quand on veut, répète-t-elle. Et est-ce dangereux de faire du Botox vers 20 ans ? Non, à cet âge-là, ce sont des faibles doses qui sont utilisées, ce n'est pas dangereux mais ce n'est pas nécessaire, répond la dermatologue. Elle souligne que cela va simplement nuire au portefeuille. Mais dans la vingtaine, il n'y a aucun problème à faire du Botox pour une occasion spéciale comme un mariage. Par contre, il peut y avoir un risque de dépendance, prévient-elle. La docteure Gagnon commence toutefois à avoir des patientes qui sont dans la trentaine. Si dans la trentaine, une personne commence à avoir des rides visibles, que ses parents ont des rides prononcées, la prévention a alors sa place, nuance-t-elle. On peut alors bénéficier de l'effet préventif du Botox sans avoir à commencer dans la vingtaine, ajoute-t-elle. Quant aux résultats naturels tant recherchés, cela ne dépend pas du Botox, mais du médecin qui injecte. Il faut que ce soit la bonne dose, la bonne dilution, à la bonne place et à la bonne profondeur, souligne-t-elle. Les personnes interrogées dans le cadre de cet article ont accepté de témoigner en donnant uniquement leur prénom, le sujet du Botox dans la vingtaine étant délicat et pouvant susciter des préjugés. Je continuerai sur ce thème juste après en vous donnant quelques chiffres.
Et toujours sur le thème de la santé, je vous emmène ailleurs, puisque je vous emmène dans les égouts, pardon pour ceux qui sont en train de déjeuner, mais il s'y passe aussi des choses intéressantes. Statistique Canada va dépenser près de 600 000 dollars par année pour analyser les eaux usées de 15 ou 20 municipalités à travers le pays à la recherche de traces de THC, l'ingrédient actif de la marijuana et d'autres drogues. La tâche d'analyser régulièrement les eaux résiduaires sera confiée à un sous-traitant. Un représentant de l'agence fédérale, Anthony Peluso, a expliqué qu'il pourrait s'agir de la meilleure façon de mesurer la quantité de marijuana consommée par les Canadiens chaque année. Monsieur Peluso a dit que Statistique Canada utilisera la même méthodologie d'analyse des eaux usées que celle qui a fait ses preuves en Europe, ce qui lui permettra de combler certains vides dans les informations dont elle dispose. Une fois le cannabis métabolisé par l'organisme, des traces des THC perdurent dans les excréments humains. On peut alors recueillir et analyser des échantillons dans des usines de traitement des eaux usées. Ces eaux résiduaires seraient récoltées chaque mois pendant une semaine, pendant au moins un an. Le contrat pourrait être allongé à 3 ans si les résultats se révèlent utiles, explique l'appel d'offres lancé par Statistique Canada. 6 municipalités regroupant quelques 8 millions de personnes tout de même ont déjà accepté de participer à l'enquête. L'agence fédérale n'a toutefois pas voulu les identifier. L'étude pourrait aussi permettre de brosser un portrait du marché noir du cannabis, par exemple, en comparant la quantité de marijuana vendue légalement et la quantité de marijuana consommée mesurée à partir de l'analyse. La technologie utilisée pour détecter la présence de marijuana peut aussi détecter la présence de drogues comme la cocaïne et les méthamphétamines. Statistique Canada prévoit également d'exploiter toutes ces données.
Petite brève avant notre pause, deux chiens se sont mariés à Québec, oui, je dis bien deux chiens, pour une bonne cause. Tout y était, la robe de mariée, les alliances, la marche nuptiale, le gâteau, pourtant ce ne sont pas des humains, mais bien deux chiens qui ont uni leur destinée samedi à Place de la Cité à Québec. À défaut de pouvoir se dire oui, Naoki et Spike ont officialisé leur union grâce à un ouf, tout droit sorti de la bouche de leurs propriétaires respectives. Les deux chiens ont même apposé leurs griffes sur un faux certificat de mariage. La cérémonie, elle en avait rien de sérieux, elle visait tout simplement à amasser des dons pour l'Arche de Kathleen, un refuge pour chiens abandonnés situé dans la MRC de Portneuf.
Alors si c'est pour une bonne cause, alors on peut tout accepter. Une petite pause musicale, restez avec nous, nous revenons pour la deuxième partie de cette émission juste après, avec encore plus d'articles étonnants et intéressants. A tout de suite.
Ce parfum que le vent dépêche, on dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer l'indocile. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en, mon cœur est un pendule, mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre, mon cœur, sous le ciel noir de cendre. Oh, Ginger, la montagne vacille. Oh, Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin, cours, allez, vas-y. Que l'enfer entier est à notre hausse. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelque part, non, ne te retourne pas. Viens vite, suis-moi mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh, Ginger, le sol sous nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. Mon cœur, l'espoir nous fait un signe. Ginger. Nous serons loin d'ici dans une heure, si tu le veux, sauve-toi. Allez, vas-y.
La formation Feu Chatterton qui nous chantait Ginger.
Et on revient sur le Botox avec ces informations et ces chiffres qui parlent. 7 millions nombre d'injections de médicaments de type Botox en 2016 aux États-Unis, en hausse de 797% depuis 2000. 38%, c'est le pourcentage de la hausse des injections d'agents de comblement pour remplir ou donner du volume à certaines parties du visage, comme les lèvres, depuis 2010, chez les 20-29 ans. Mais alors, qu'est-ce que le Botox ? C'est en fait une protéine purifiée d'origine bactérienne, une toxine botulinique de type A. L'injection de ce médicament dans le muscle bloque la transmission nerveuse qui cause la contraction du muscle. Cela entraîne une relaxation musculaire locale qui diminue les rides du visage. Les effets sont visibles quelques jours après l'injection. En termes de prix, un traitement au Botox peut coûter entre 85 et 475 dollars en moyenne, selon les zones du visage. Le traitement du bas visage, comme la lèvre supérieure, est moins cher que le haut du visage, alors qu'on paye en moyenne 200 dollars pour le tour des yeux. Certaines cliniques demandent en plus un prix pour la consultation d'environ 95 dollars. Selon la docteure Chloé Sylvestre, aujourd'hui, les gens jugent moins les jeunes qui ont recours au Botox. La médecin a d'ailleurs elle-même eu des injections dans la vingtaine. Les gens me jugeaient beaucoup plus qu'ils jugent les jeunes patients aujourd'hui. Je me faisais traiter de superficielle. Aujourd'hui, on pense plus que la personne veut simplement prendre soin de son image et de sa peau, estime-t-elle. Ça correspond à un mal de la société dans laquelle on se trouve. Tout le monde a de la difficulté avec son image corporelle, mais les jeunes sont plus susceptibles d'avoir ces insatisfactions-là, explique la psychologue. Elle constate aussi Une augmentation des traitements et opérations de chirurgie esthétique chez les jeunes pour contrer ces insatisfactions corporelles. Au banc des accusés, les médias sociaux. La psychologue souligne qu'il est de plus en plus démontré que plus on est exposé à des images sur les réseaux sociaux, plus on risque d'être insatisfait de son propre corps. Et ce, même si les milléniaux savent très bien que les images sont retouchées, que des filtres sont ajoutés et que pour un égo-portrait publié sur Instagram, il a fallu 15 essais. Mais dans la vingtaine, est-on réellement préoccupé par les rides et la vieillesse ? L'idée d'avoir des rides, un corps qui change, ce n'est facile pour personne, jeune ou moins jeune, mais il y en a pour qui c'est vraiment plus difficile. Cette préoccupation est liée à un désir d'être accepté, aimé et reconnu. Et c'est un âge où on est très influençable, surtout par ses amis. On a un fort désir d'appartenir à un groupe et on se définit beaucoup par son image, rappelle la psychologue. Le culte de la jeunesse, l'insatisfaction de son image corporelle et le recours à des traitements pour modifier son apparence, tout cela risque de s'amplifier. Car avec la prédominance des médias sociaux, on n'est pas dans une tangente où ça va diminuer, croit-elle. Annie Aimée déplore que les réseaux sociaux rendent les traitements esthétiques accessibles et acceptables et ne divulguent pas une information complète. Idéalement, il faudrait une psychologue dans les cliniques esthétiques pour mieux évaluer la patiente, soulève-t-elle, car si on a une vulnérabilité psychologique, on ne sera pas forcément satisfait après le traitement. L'insatisfaction va revenir, mais sous une autre forme. Ça sera une autre ride, par exemple, évidemment. On peut modifier son corps indéfiniment, mais pendant ce temps, on n'apprend pas à l'apprécier, à vivre avec et à le valoriser, conclut-elle.
Parlons bien-être et corps humain, nos sujets sont liés ce matin. Je vous parle pour ma part de l'insolite mariage du yoga et de la bière. Ils sont une cinquantaine de yogis concentrés sur leur tapis à l'intérieur du pavillon Aberdeen, irradié de soleil. Il est tout juste 11h du matin ce samedi. Au programme, les positions de base du yoga, mais avec cette particularité bien spéciale, une instructrice souriante, un verre de bière à la main, effectue une flexion du corps tout en vantant la couleur et l'arôme d'une bière brune. « Sentez ce doux parfum », dit-elle à ses élèves en parlant de la bière, « il tient du chocolat et du café ». Puis elle invite ses disciples à prendre une gorgée de bière et à la savourer. Voilà donc tout le principe du programme Yoga on Tap, une des activités de l'entreprise de la yogi Ashley College d'Ottawa, qui pilote aussi les activités « Bike to Beer » et « Run to Beer ». Le directeur général du Brewfest d'hiver d'Ottawa, Michael O'Farrell, s'associe depuis 3 ans à l'école de yoga d'Ashley College pour offrir aux visiteurs cette expérience insolite, qui existe cependant ailleurs dans le monde. Des programmes de yoga on tap ont aussi pignon sur rue à Vancouver, Miami et dans le Missouri, entre autres. Le yoga implique de la détente et la découverte de nouvelles sensations, un peu comme la bière. La bière, comme la dégustation de vin et le yoga, c'est très épicurien. Les sensations ressenties quand tu bois une bière sont semblables à celles du yoga. C'est un concept cool, c'est le mélange de deux choses très tendances de nos jours, explique le jeune promoteur Michael O'Farrell, qui est aussi derrière les deux festibières de Gatineau et celui de Toronto. Durant 2 jours, vendredi et samedi, le Brewfest d'Ottawa aura donc accueilli entre 7 et 8 000 personnes à qui on aura offert un choix de 157 différentes bières de microbrasseries locales. À la fin de l'expérience, on aura ingurgité entre 12 et 16 000 litres de bière issus de 44 différentes microbrasseries. Le profil type de la clientèle ? Elle est majoritairement âgée de 25 à 45 ans, autant composée de femmes que d'hommes, et elle vient s'y balader en couple ou entre amis. Autre étonnante observation, 50% de la clientèle du festivière de Gatineau arrive d'Ottawa, tandis qu'à peine 5% de la clientèle du Brewfest d'Ottawa est québécoise. Il s'agissait de la 4e édition du Brewfest d'Ottawa, mais une toute première expérience au pavillon Aberdeen du parc Lanson, plus vaste que le site des 3 premières éditions, soit l'édifice de l'horticulture. Voilà, après les chèvres, où j'en ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux, mais désormais le yoga est associé à la bière, apparemment, pourquoi pas.
Alors, nous parlons à présent plutôt très ancien, mais assez méconnu encore pour le moment, le Cava, un breuvage anti-stress en plein boom à New York. C'est un article de Jenny Matthew de l'agence France Presse. Les peuples du Pacifique Sud en consomment depuis des millénaires. Et aujourd'hui, le Cava gagne les jeunes New-Yorkais stressés, parfois prêts à renier l'alcool pour cette boisson aux effets anxiolytiques qui les aide à affronter embouteillage, surmenage et Donald Trump. Une racine réduite en poudre mélangée à de l'eau puis filtrée, le cava et son goût d'eau boueuse peut faire régurgiter, surtout s'il n'est pas combiné à un jus de fruits ou à un autre complément. Il n'empêche, ses effets relaxants et euphorisants sont de plus en plus demandés dans une ville bruyante et stressante comme New York. S'il y a bien une ville qui a besoin de se détendre un peu et de ralentir, c'est New York, affirme Harding Stowe, 31 ans, propriétaire du café Brooklyn Cava, dans le quartier branché, à Brooklyn. « Je pense vraiment que le Cava va exploser », ajoute-t-il. Si boire du Cava tient de traditions ancestrales aux îles Fidji ou en Polynésie, en Occident, c'est de plus en plus perçu comme une alternative saine à l'alcool par des jeunes qui veulent faire la fête sans se réveiller le lendemain avec la gueule de bois. C'est vraiment relaxant, ce n'est pas comme de l'alcool ou de la drogue, dit Sabrina Cheng, une jeune artiste de Brooklyn devenue adepte du Brooklyn Cava. Je supporte mal l'alcool de toute façon. Avec le Cava, on peut passer toute la journée ici, lire un livre, travailler sur un ordinateur portable et discuter. Pour les jeunes, c'est beaucoup moins cool qu'avant de passer la soirée dans les bars, souligne Stowe. Les gens veulent quelque chose de nouveau et de sain. Le Cava avait connu un premier engouement dans les années 90, mais les exportations de piètre qualité, ajoutées à une mauvaise connaissance des effets de la plante, avaient nourri une forte contre-publicité. Aujourd'hui, malgré un avertissement en 2002 des autorités fédérales américaines sur le risque rare mais potentiellement grave de dommages au foie, le boom a repris. Entre 2012 et 2016, les exportations de Cava en provenance des seules îles Fidji ont plus que doublé. Contrairement aux années 90, notre connaissance médicale de la plante est bien meilleure. Elle a été très étudiée et largement perçue comme bénéfique et sans danger, explique le chercheur Zbigniew Dumiński de l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Si le Cava est bien établi en Floride, il a décollé lentement à New York. La première ville américaine ne compte que 3 cafés spécialisés à côté de quelques 10 000 bars attirant les jeunes cadres avec leur happy hour à la fermeture des bureaux. 2 de ces cafés sont situés à Bushwick, un quartier plein d'artistes et de jeunes en quête de loyers abordables et adeptes des bars et des cafés. J'ai traversé des moments d'angoisse avec mon boulot précédent et ça, le Cava, m'a vraiment beaucoup aidé, témoigne Filmé, 25 ans, analyste financier dans les médias, attablé à la maison du Cava avec son amie Suzy. Avant, je buvais de l'alcool 2-3 fois par semaine et je me prenais parfois une cuite le week-end, dit-il. Là, ça doit faire 2 semaines que je n'ai pas touché d'alcool. Pour attirer le public, la maison du Cava propose toutes sortes d'animations, dont des soirées ouvertes aux musiciens amateurs qui attirent jeunes rappeurs, poètes et humoristes. La moyenne d'âge tourne autour de 25 ans, mais des sexagénaires commencent aussi à franchir ses portes. Je viens d'une famille conservatrice où je suis la seule progressiste. L'état du monde, c'est le plus grand facteur de stress pour moi, explique Kellyanne Holland, 24 ans, employée d'une association à but non lucratif rencontrée à la maison du Cava. Les lumières y sont tamisées, l'ambiance douce et tranquille. Une femme est plongée dans son ordinateur portable, un autre lit, tandis qu'un couple discute à voix basse, pas un mot plus haut que l'autre, contrairement au bar classique new-yorkais. Personne n'a encore menacé de mettre le feu ni lancé une bagarre, lance en riant le gérant Ryan Lloyd. Les affaires commencent à marcher, dit-il, comme au Brooklyn Cava où Harding Stowe a désormais surmonté sa crainte d'avoir fait une erreur en se lançant dans ce commerce. Avant, dit Monsieur Stowe, les gens ne savaient pas ce que c'était le Cava, mais depuis 6 mois, c'est fou, on n'arrête pas. Des choses stressantes se sont produites en Amérique, avec l'élection de Trump, cela a contribué à cet essor du Cava, dit-il. Il envisage d'ouvrir d'autres cafés Cava ou de s'associer à des studios de yoga ou de méditation qui vendraient la boisson. Trump, c'est donc bon pour les affaires ? C'est triste à dire, mais probablement, reconnaît le jeune entrepreneur.
Et je ne suis pas scientifique, mais je suppose qu'on peut ajouter à consommer avec modération.
Tout à fait, exactement.
Campagne électorale en langage des signes, c'est possible, ça paraît être une bonne idée, mais ça n'a pas déclenché que des réactions positives, vous allez voir. Le président vénézuélien a fait campagne en langue des signes, du moins a commencé à essayer. « Nous avons une surprise pour vous, soyez attentifs », avait promis le président vénézuélien Nicolas Maduro, provoquant une grande attente dans son pays. Mais le chef de l'État a finalement surpris, amusé et agacé une partie de la population avec une publicité de campagne en langue des signes. Un jour après ce message mystérieux sur Twitter, le dirigeant socialiste est apparu dimanche soir à la télévision et a traduit en langue des signes, des slogans visiblement destinés à sa campagne en vue du scrutin anticipé du 22 avril, où il brigue un nouveau mandat. « Nous voulons la paix, nous voulons un Venezuela pour tous », y disait-il ou y mimait-il plutôt. La publicité, qui montre aussi des proches collaborateurs du président, dont sa femme, Cilia Flores, qui l'évoque comme un grand leader, a généré une pluie de réactions sur les réseaux sociaux. Parmi elles, une jeune internaute, sourde-muette, lui a répondu par un message vidéo. « Président Maduro, la communauté sourde veut te dire que nous sommes fatigués des mensonges, de tant de répression, de tant de faim. Nous avons un message pour toi et un seul signe pour toi », conclut la jeune femme, en lui adressant un doigt d'honneur. Plusieurs dirigeants de l'opposition ont également critiqué cette publicité. Que Maduro et sa clique aient appris à dire des mots en langue des signes, cela ne veut pas dire qu'ils aiment le peuple, mais plutôt qu'ils se moquent de lui, a par exemple réagi sur Twitter la députée Delsa Solorzano. De nombreux internautes se sont amusés à détourner les images du message présidentiel, mais ont aussi exprimé leur déception, car ils espéraient une annonce de mesures contre la sévère pénurie d'aliments et de médicaments dont ils souffrent, doublée en plus d'une hyperinflation. Ce genre de message, ce n'est pas pour le pays, nous voulons plus d'actes. L'hyperinflation est en train de nous noyer, a commenté sur Twitter Luis Martinez. Sur Facebook, une partisane de M. Maduro, Liane Ravelo, défendait son message, utile selon elle pour que les sourds de l'opposition comprennent en langue des signes que nous voulons la paix. Pour l'expert en communication Andrés Canizales, le spot est bien fait, il a un message valide et intéressant. Mais selon lui, le problème est l'attente que cela a générée, car le pays espérait des annonces économiques, c'est pour cela que ça a déçu. En outre, il a interrompu le prime time du dimanche, qui est un espace intime, provoquant l'irritation des téléspectateurs.
Les nombreuses vitres du nouveau siège social d'Apple sont tellement transparentes que les employés s'y heurteraient à répétition. Inauguré au printemps dernier à Cupertino en Californie, l'Apple Park doit normalement accueillir 12 000 employés. Ce grand bâtiment en forme d'anneau a été imaginé par l'architecte Norman Foster. La vue s'ouvre sur l'extérieur grâce à de grandes baies vitrées mesurant plus de 13 mètres de haut. À l'intérieur, le verre est également très présent dans les espaces de travail. Les employés ayant souvent leurs yeux rivés sur leur iPhone, certains d'entre eux se cogneraient contre les multiples parois vitrées. Certains salariés se sont mis même à coller des feuillets autocollants post-it sur les vitres afin d'éviter les chocs, mais ils ont été retirés pour ne pas nuire au design du bâtiment, ont déclaré des membres du personnel qui ont tenu à garder l'anonymat. Une porte-parole d'Apple a refusé de commenter ces informations. L'Occupation Safety and Health Administration rapporte qu'aucune blessure survenue sur le nouveau campus d'Apple ne lui a été rapportée. Ce n'est pas la première fois que le verre pose problème à Apple. En 2011, Evelyn Passwall, une femme octogénaire, s'est cassée le nez en se prenant une porte vitrée en pleine figure dans un magasin Apple. Arguant que l'entreprise avait été négligente, elle avait poursuivi Apple en justice, mais n'avait pas obtenu gain de cause.
Et comme quoi, même quand on est une entreprise, il ne fait pas bon être trop transparent parfois.
Exactement.
Une histoire impressionnante de médecine, un homme greffé du visage. Pour la deuxième fois, c'est le titre de cet article. Il est resté un mois et demi sans visage. Un homme qui avait reçu une greffe totale de la face il y a plusieurs années a dû en subir une deuxième à cause d'un rejet, cas inédit, qui illustre le suivi délicat de ces opérations spectaculaires. Initiée en 2005, cette technique aux lourdes implications éthiques comporte des risques importants de complications. Ils sont dus au phénomène de rejet et aux traitements destinés à l'éviter, qui doivent être pris à vie et abaissent les défenses de l'organisme. Cette opération complexe a été réalisée à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris par une équipe dirigée par le professeur Laurent Lantieri, spécialiste de ces interventions. Le 30 novembre, la gravité du rejet avait nécessité qu'on lui retire complètement le premier visage greffé, selon un communiqué de l'Agence de la biomédecine et de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. Depuis, il était hospitalisé en réanimation. Pour la première fois au monde, cette opération démontre, dans le domaine des greffes vascularisées composites, face et mains, qu'en cas de rejet chronique, une retransplantation est possible, souligne l'agence. Mais cette greffe est soumise à des contraintes immunologiques sévères et seul le suivi à plusieurs semaines confirmera la viabilité du greffon. La première greffe du visage au monde partiel remonte à 2005 et a été réalisée par l'équipe du professeur français Bernard de Vauchel. Elle avait bénéficié à une femme de 38 ans, Isabelle Dinoir, défigurée par son chien. Cette dernière est décédée en avril 2016 d'une tumeur maligne. Les deux premières greffes totales du visage datent de 2010, réalisées par une équipe espagnole et le professeur Lantieri. Depuis 2005, moins de 40 greffes du visage ont été réalisées dans le monde. La possibilité de rejet qui existe pour toutes les greffes est a priori plus importante pour celle du visage et des mains, explique le professeur Olivier Bastien de l'Agence de la biomédecine. Ce type de greffe concerne en effet les structures profondes de la peau qui attirent beaucoup les lymphocytes. Ces globules blancs s'attaquent au tissu greffé, considéré comme un corps étranger. Lorsqu'ils ne sont plus contrôlables par les traitements, les phénomènes de rejet chronique peuvent entraîner la destruction de l'organe greffé. En outre, les traitements anti-rejet ont des effets secondaires, diabète, insuffisance rénale, hypertension artérielle, ostéoporose, etc. Et comme les greffés du cœur ou du rein, les patients transplantés de la face fragilisés par les traitements anti-rejet sont plus vulnérables au risque d'infection et de cancer. Ce type de greffe reste rare car il concerne des cas exceptionnels pour qui la chirurgie réparatrice classique ne suffit pas, souligne le professeur Bastien. Ce n'est pas une greffe uniquement esthétique, ajoute-t-il. Elle a vocation à restaurer la mastication, la salivation et nécessite la repousse des nerfs qui permettent de commander ses actions. Toute la partie rééducation est très longue. En dévoilant ce cas sans toutefois donner l'identité du patient, l'Agence de la biomédecine a partiellement confirmé des informations de l'hebdomadaire Hebdo paru vendredi. L'Agence de la biomédecine déplore que le principe de l'anonymat n'ait pas été respecté. L'application stricte de ce principe est indispensable au respect du donneur et de sa famille, dont le deuil doit être protégé, écrivent-elles. Les deux institutions ajoutent qu'elles n'avaient pas l'intention de rendre cette greffe publique avant un délai de plusieurs jours, permettant d'avoir davantage d'éléments sur les suites à plus long terme de l'intervention et sur l'état de santé du patient.
Petite brève, une information insolite, un parieur kényan a fait sauter la banque en décrochant un gain record de 230 millions de shillings, environ 2,9 millions de dollars canadiens, après avoir prévu 17 résultats de matchs dans des championnats européens de soccer. Gordon Opio, un magasinier de 31 ans, a notamment trouvé le bon pointage de Liverpool-Tottenham, comptant pour la 26e journée du championnat d'Angleterre, un 17e score synonyme de gros lot. J'étais heureux quand le capitaine de la sélection kényane, Victor Wanyama, et Harry Kane ont égalisé pour Tottenham dans les derniers instants de la partie. Quand Liverpool menait 1-0, j'avais arrêté de regarder le match, a-t-il raconté aux médias. Le précédent record, 221 millions de shillings, remontait à mai 2017. Avec le développement des technologies modernes, les parieurs kényans peuvent désormais placer des ordres ou des mises sur leur téléphone intelligent.
Une petite brève également tirée de ma série des questions existentielles. Pourquoi les roues des autos ou des camions semblent parfois tourner à l'envers? Eh bien, c'est notre vue qui nous trompe. Lorsqu'une voiture avance, au fur et à mesure qu'elle accélère, il arrive que ses roues aient l'air de ralentir avant de se mettre à tourner vers l'arrière. Cette illusion s'explique par les limites de notre œil à capter, traiter et envoyer des images chaque seconde au cerveau. Plus la roue tourne rapidement, moins l'œil distingue les images du mouvement réel. À une grande vitesse, une image est enregistrée, Mais avant que la prochaine soit captée, la roue a déjà effectué un tour complet, créant l'effet d'optique. Et ce qui conclut cette émission, il me reste donc à remercier ma collaboratrice Yolaine Torres pour sa présence et ses sujets. Remerciements également à Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux toujours de qualité. Juste après, retrouver Hélène Denis qui anime notamment les Paractualités et sera là pour le quotidien des quotidiens. Pour ma part, eh bien, je serai là la semaine prochaine, peut-être seul, peut-être accompagné, nous verrons bien. C'était Louis de Bernis pour les voix de service. Bonne journée, bonne semaine à tous.